France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Est-ce que les catholiques en France n'ont pas dit leur dernier mot et vivent un renouveau? Ou est-ce que les catholiques en France assistent à leur propre déclin? Et lorsqu'une religion décline, est-ce qu'elle se radicalise? Parce que quand on est une minorité, on a tendance à se restructurer sur soi-même pour ne pas disparaître. Est-ce qu'on voit un regain de vivre sa religion de manière plus tradie? Messe en latin, messe à la bougie, pèlerinage? Dans quelle case, si j'ose dire, sont les nouveaux catholiques? Les 1000 catéchumènes dont on parle tous les ans à Pâques, qui sont-ils? Est-ce que ce sont les mêmes qui vont en pèlerinage à Chartres ou pas du tout les mêmes catholiques? Il est passionnant ce sondage Bayard Lacroix fait par l'IFOP parce qu'il ouvre 1000 portes. Il a été dévoilé lundi dernier et toute cette semaine et la suivante, il est décliné dans le journal. Il nous pose 1000 questions sur une religion ultra majoritaire en France il y a encore une cinquantaine d'années qui aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes, fait jeu égal avec les musulmans. 15% de catholiques déclarés, 13% de musulmans déclarés. On est sur les 15-29 ans. Est-ce que lorsqu'on s'interroge sur la place des catholiques et que l'on voit les rassemblements où ils sont nombreux, on doit parler de plus de visibilité, encore une fois, pour ne pas disparaître. Est-ce que cela s'accompagne aussi de plus de liturgie? Qu'est-ce qui rassemble, malgré tout, les catholiques engagés, ceux qui vont donc à la messe au moins une fois par mois, des catholiques occasionnels, qui sont croyants, mais se contentent de fêtes religieuses? Où sont les catholiques? Qui sont les catholiques engagés aujourd'hui? Est-ce que c'est vous? On sera ravis de vous entendre. Est-ce que vous vous reconnaissez dans une religion qui se démarque sur des thèmes de société, l'avortement, le mariage gay, l'euthanasie? Est-ce que au contraire, ce sont ces thèmes revenus dans le débat qui ont réveillé votre foi catholique? Nous en parlons ensemble, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Christophe, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir, je suis surpris d'être le premier, mais bon.
Oui, vous savez, les premiers seront les derniers, comme on dit.
Exactement.
On vous écoute.
Et assez, me surprend moi-même d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été catholique, mais depuis très peu de temps, je commence à l'assumer plus facilement, voire même à être en être fier et à le proclamer. Et ça, c'est très nouveau, parce que longtemps, j'ai été plutôt honteux, j'ai même caché, j'ai même parfois menti sur ma religion. Et j'ai l'impression que le climat général favorise cette fierté, peut-être parfois même cette joie. Donc je suis d'ailleurs très content de constater que ça concerne toutes les religions. Mmh. Et ça, c'est bien, et sans pour autant taire les personnes athées ou les anticléricaux. Donc voilà, c'est plutôt surprenant. Alors évidemment, je vais jouer le ravi de la crèche, qui est de circonstance, approche de Noël, mais j'ai l'impression qu'on va plutôt vers quelque chose qui se pacifie. Mm-hmm. Et ça me réjouit. Alors sans doute que c'est la pluralité des religions qui m'a permis cette espèce de coming out, hein, pour faire un mauvais jeu de mots sur la religion. Peut-être que c'est aussi les positions de l'Église catholique plus ouverte, une sécularisation plus aboutie. Mm-hmm. Mais je pense que c'est plutôt la pluralité des religions et le fait que chacun se sente bien dans sa religion qui m'incite à cette fierté-là.
Mais Christophe, vous l'avez situé où dans le temps, ce moment où, parce que vous avez des mots qui sont très forts quand même, vous dites « j'avais honte » et maintenant il y a une forme de fierté. Est-ce que la bascule, vous la situez à peu près où? Quand plutôt?
C'est très récent, ouais. Je dirais peut-être 5 ans, quelques 5 ans. La fierté encore plus récent, vraiment depuis peut-être quelques 2 ans, 3 ans. C'est très très récent. Et c'est peut-être parce que la question religieuse s'est invitée un peu partout, dans tous les débats, d'une manière générale. Mmh. C'est pas forcément catholique, mais voilà, sans doute. Voilà.
Mais est-ce que ça veut dire que vous vivez votre religion différemment, c'est-à-dire vous allez plus à la messe, etc., ou pas du tout, en fait? C'est simplement le fait de pouvoir en parler, de pouvoir l'assumer, ou est-ce que ça s'accompagne aussi d'une nouvelle pratique, vous-même, de votre religion?
Ouais. Mmh. Non, ça s'accompagne, ouais. Okay. Ça s'accompagne de pratiques, ça s'accompagne aussi d'une écoute plus attentive des autres religion et de ceux qui la pratiquent. Et oui, je vais plus à l'église, mmh. même si c'est pas indispensable pour être catholique, mmh. enfin selon moi. Mais sans aucun doute, ouais.
Eh ben formidable. Merci beaucoup, Christophe. Vous entamez formidablement bien notre débat. Merci encore pour discuter ensemble autour de la table. Il y a, je commence avec vous, Arnaud Bévilacqua. Bonsoir.
Bonsoir.
Parce que vous êtes journaliste chef adjoint du service religion de La Croix, et c'est le sondage qui est paru chez vous qui nous a interpellés, intéressés, et dont on a eu envie de discuter. Bonsoir, Isabelle de Gaulle.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et productrice sur France Culture, la série documentaire Le LSD, assez récent, il y a quelques semaines seulement, qui s'appelle Catholique de France, la tentation radicale, est toujours en ligne, évidemment. 5 gros épisodes, si je ne m'abuse, 5 fois 5 heures, donc il y a vraiment de quoi... 4, pardon. Donc c'est déjà ça. Il y a vraiment déjà de quoi faire. Moi, je suis assez curieuse, l'un et l'autre, Arnaud Bévilacqua peut-être. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage de Christophe, qui dit vraiment, avant j'avais honte et je me cachais, maintenant je le vis beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis ?
Ça concorde avec beaucoup de témoignages que nous aussi, on voit, en tant que journaliste au service religion à La Croix, une manière plus décomplexée d'assumer mmh. sa foi. Il y a plusieurs raisons, je pense. Peut-être que, effectivement, il en a parlé, notre auditeur, la présence d'autres religions, mmh. clairement, la manière dont les musulmans ou les protestants évangéliques mmh. peuvent assumer leur foi de manière plus libre que mmh. les catholiques, peut-être à décomplexer certains catholiques pour assumer leur identité religieuse. Mmh. Ce qui est un peu paradoxal, parce que globalement, la société a tendance à continuer de se défaire de l'appartenance religieuse. Mmh. Mais pourtant, les croyants l'assument davantage, assument comme une part de leur identité, de manière souvent apaisée. Après, peut-être qu'on a aussi beaucoup plus... Enfin, le fait religieux est beaucoup plus présent, peut-être, dans la société. Mmh. Il y a eu l'inauguration de Notre-Dame, il y a eu la visite du pape en Corse. Peut-être que tous ces éléments font que c'est peut-être plus facile d'assumer d'être catholique aujourd'hui en France.
Isabelle de Gaulleman, il y a effectivement le fait religieux qui est plus présent, c'est ce que disait Arnaud Bévilacqua, mais il a raison aussi, notre auditeur Christophe, on a l'impression que la religion s'est invitée dans plein de nos débats de société, ce qui était absolument, en tout cas plus le cas, moi j'avais l'impression, peut-être que je me trompe, que c'était plus le cas, et c'est revenu, est-ce que c'est revenu il y a une dizaine d'années avec le mariage pour tous,
alors,
et
revenu,
ça continue
voilà, c'est beaucoup revenu avec le mariage pour mm-hmm. tous, et puis ensuite dans toutes les discussions autour de l'éthique, de la bioéthique, mm-hmm. et puis aussi il me semble que c'est aussi important dans le contexte international. C'est-à-dire qu'on voit bien aux États-Unis qu'il y a aussi là de la religion, hein, chez Trump, les évangéliques, mais aussi
mais du catholicisme, absolument, voilà, ouais. Un retour même là pour le coup, ouais.
Un peu agressif. On voit bien aussi en Europe qu'il y a aussi des partis maintenant qui se réclament du christianisme. Donc il y a tout cet intérêt, mais apparemment lui n'est pas dans cette optique politique. Ouais, mais par contre, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et puis il y a peut-être aussi un phénomène de génération, c'est-à-dire que vous parlez les gens. Aujourd'hui plus de 70 ans, ils sont nés dans une France catholique où la religion pouvait être vue aussi soit comme bien, soit comme mal, c'est-à-dire comme une contrainte. Il fallait y aller, la figure du prêtre, la figure de l'Église. Il y avait beaucoup de critiques sur la religion. Et aujourd'hui, on est plus dans une société qui est ignorante, donc qui découvre finalement la religion catholique comme
avec
une nouvelle religion.
Mais avec gourmandise, vous pensez ?
Avec gourmandise, ou en tout cas sans toutes ces a priori qu'il y avait autrefois. Et ça a quand même beaucoup changé.
Après, je regrette de ne pas avoir demandé à Christophe Arnaud Bévilacqua, s'il venait d'une famille catholique, parce que ce que j'ai aussi retenu de votre sondage, c'est que plus on vient de cet environnement-là, plus on est enclin à être un catholique engagé, et même éventuellement à revenir dans la religion. Il y a une espèce d'atavisme familial, enfin c'est clair pour ce qui est de la religion catholique, non ?
C'est très clair, c'est même assez clair pour toutes les religions, mais pour le catholicisme c'est vrai aussi.
Alors cela dit, il paraît que c'est plus vrai encore pour les musulmans, c'est ce que j'ai lu effectivement également chez vous.
Mais la transmission familiale, c'est extrêmement important en effet. Je crois que c'est à peu près 2/3 des catholiques pratiquants qui viennent d'une famille pratiquante. Donc on peut penser que ce catholicisme, il se recompose autour de ceux qui ont transmis, dont les parents qui ont transmis la foi et pour qui, du coup, les enfants suivent la pratique de leurs parents.
Mais le sens de ma question, c'est ça en fait. Est-ce que c'est une manière différente de vivre la religion des enfants, leurs parents étant catholiques avant eux, ou est-ce qu'il y a un vrai renouveau ? Enfin, qu'est-ce qu'on fait de ces fameux 1000 catéchumènes dont on fait des sujets, pour dire les choses très clairement, tous les ans, au moment de Pâques, en se disant, ah ben dis donc, cette année encore, il y en a beaucoup. Donc, est-ce que c'est un nouvel apport, ou est-ce que c'est une nouvelle manière de vivre sa religion lorsqu'on est déjà, de toute façon, dedans, l'un ou l'autre, Isabelle de Golemin?
À mon avis, c'est une nouvelle manière de vivre sa religion. C'est-à-dire que les catéchumènes, c'est vrai que c'est 1000, mais c'est rien si on voit par rapport au baptême d'autrefois.
Oui, mais si c'était 30 avant, 1000, ça fait beaucoup par rapport à 30.
Ça fait beaucoup par rapport à 30, mais sauf qu'autrefois, vous avez tous les bébés étaient baptisés.
C'est vrai, ce qui n'est plus le cas.
Ce qui n'est plus le cas. Donc, en fait, les 1000 ne récupèrent pas, évidemment, ne rattrapent pas l'énorme effondrement du nombre de baptêmes. En fait. Par contre, c'est vrai que c'est une nouvelle manière qui est plus visible, plus identitaire. Sans doute, il y a aussi un besoin dans une société de se marquer plus fortement. Et puis, comme ils sont minoritaires, c'est plutôt jeunes catholiques, ont effectivement besoin de s'affirmer dans un monde où ça ne va pas de soi d'être catholique. Effectivement, on voyait bien, Christophe nous disait, moi avant, je n'osais pas en parler. Donc là, au contraire, ils disent, bon, bah, si, on en parle, et puis on est entre nous. Et du coup, ça fait, on va dire, une religion plus affinitaire. On va dire qu'autrefois, le catholicisme, c'était une sorte de service public en France. On se baptisait et on enterrait les gens et on était là pour les grands moments et ça aidait les gens dans leur vie. Aujourd'hui, c'est plus une religion affinitaire qu'on vit en communauté.
Mais est-ce que ça veut dire, on va retourner au standard où Gabriel nous attend dans une seconde, mais j'ai vu que vous vouliez intervenir, Arnaud Bévilacqua, est-ce que ça veut dire que si on en parle aujourd'hui, si ça se ressent effectivement dans un sondage, c'est comme le dit Isabelle de Golemin, parce que moins on est nombreux, plus on fait du bruit, plus on a besoin de la lumière et plus on va la chercher. Et ça donne cette visibilité qu'il n'y avait pas avant.
Oui, ça c'est très clair, le caractère minoritaire fait que les croyants veulent exister et effectivement sont plus visibles.
Donc c'est une forme de chant du cygne quand même, non ou pas?
Pas forcément, parce que on voit notamment les chiffres montrent que, enfin notre sondage, que les catholiques pratiquants réguliers sont 3 millions de personnes, 5,5% de la population française. C'est plutôt un chiffre qui résiste. Quand on a vu ces chiffres, on pensait que c'était moins. Mais je voulais juste revenir sur les catéchumènes. Ils sont 10 000. Hein. C'est pas 1000, c'est 10 000. Okay. Donc c'est quand même un chiffre important. Comme l'a dit très bien Isabelle, ça ne remplace pas du tout les enfants
les bébés
qui sont pas baptisés.
Plus, ouais.
Ça, c'est très clair en nombre. En revanche, 10 000 personnes qui veulent devenir catholiques dans un moment où l'Église n'a pas forcément bonne presse ou rien ne pousse vraiment à être catholique, c'est pas insignifiant. Je pense qu'il faudra voir sur la durée ce nouveau catholicisme qui vient à la fois de gens de familles qui sont pas pratiquantes ou de familles qui sont même pas catholiques.
Voici Gabriel qui est avec nous. Bonsoir Gabriel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Gabriel.
Oui, bonsoir, je veux juste réagir. En fait, ce que je voulais dire, c'est que bien évidemment que aussi il y a une part de que notre génération du téléphone et notamment aussi du Covid, et on sait que j'en ai parlé avec beaucoup de prêtres, que en fait, notamment pendant le moment du Covid où les gens étaient plus seuls, les gens se posaient des questions, on va dire, plus spirituelles. Et donc à ce moment-là, il y a eu un rapprochement. Beaucoup de la religion et de notre génération du téléphone, on a moins de contact avec les gens et c'est vrai que dans la religion, ça nous permet de rencontrer des gens qui pensent comme nous et de pouvoir discuter comme nous ou pas comme nous, mais en tout cas qu'il y a un point de convergence et voilà, donc ça c'est ce que nous apporte aujourd'hui la religion.
Gabriel, quel âge vous avez ?
J'ai 20 ans.
Et est-ce que, en plus de ce que vous nous dites et de la manière dont vous vous êtes visiblement rapproché de votre religion, vous la pratiquez aussi, c'est-à-dire en allant à la messe, etc.
Exactement.
Okay, d'accord.
Et je dirais que aussi, il y a des choses faites pour les jeunes. Quand vous voyez tout ce qui est fait pour les jeunes, je veux dire, c'est aussi pour se rencontrer des jeunes avec la foi. Je veux dire, quand vous voyez les JMJ, le nombre où on était au JMJ, quand vous voyez, je vais à la messe chez moi, c'est une messe faite pour les jeunes. Enfin voilà, on est vraiment accueillis en tant que jeunes, c'est pour les jeunes et c'est vraiment fort ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà.
Merci Gabriel, merci pour ce témoignage. Isabelle de Golemin, je vous voyais réagir à ce que dit Gabriel.
Oui, ça conforte bien l'enquête de la Croix qui, à mon avis, a cet intérêt de montrer que ces gens très cathos, eh ben c'est pas comme on le croit des vieux croulants.
Mais surtout pas, voilà, ouais, absolument.
Ouais. Des gens anciens. Au contraire, l'âge moyen est de 50 ans, donc en fait ils sont très jeunes. Donc là, il y a eu vraiment un renouvellement du côté des pratiquants fabricants, hein, effectivement, d'une génération beaucoup plus jeune.
Donc des engagés,
Donc de fait, il y a un renouvellement. Et ça, je trouve ça intéressant. Et comme le disait très bien Gabriel, c'est vrai que c'est une génération. Il y a eu le Covid, il y a aussi la crise écologique, il y a un monde international qui est quand même sacrément angoissant. Donc il y a peut-être aussi un besoin de sens qu'on va chercher, pas que chez les catholiques, mais aussi dans le catholicisme. Et de fait, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont chez les évangéliques ou qui vont l'islam. Donc on sent bien que cette génération-là, elle a besoin peut-être de se situer, de trouver d'autres réponses.
Allez-y Arnaud Béville, quoi ?
C'est très clair, cette question de recherche de sens. Et c'est vrai que Gabriel parlait du Covid, c'est très clair qu'il y a un effet Covid qu'on va pouvoir voir peut-être encore dans 5 ans, mais on a du mal à comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais clairement, par exemple, le nombre de catéchumènes, il est lié très au clairement COVID. À la question du Covid. Et donc, nous, on a étudié les catéchumènes à la Croix, et on voit que on leur a posé la question pourquoi, assez libre, pourquoi vous voulez être baptisé ? Les questions de sens reviennent constamment. Je veux donner du sens à ma vie. Mes parents m'ont pas transmis de religion, mais j'ai toujours su que j'étais croyant. Enfin, c'est ces témoignages qui reviennent vraiment très très couramment. Donc peut-être qu'il y a, je sais pas s'il y a un retour du religieux, mais en tout cas il y a un retour de la question du sens.
Moi, je voudrais savoir s'il y a où vous situez la frontière entre engagé et tradit. On rejoindra Pierre dans un instant, mais elle est où cette frontière, Isabelle de Golemin? On peut être catholique engagé sans être un catholique tradit.
Absolument, absolument. Par contre, effectivement, la bascule qu'il y a eu de ces dernières années, c'est que dans les catholiques pratiquants, le nombre de gens attirés par une pratique plus traditionnelle ou traditionaliste est plus important. Et vous avez beaucoup de signes. Par exemple, vous avez maintenant beaucoup de prêtres qui sont non seulement avec un col romain, mais qui sont en soutane. Vous avez pas mal de messes dans les églises parisiennes où, par exemple, les petites filles ne peuvent pas être enfants de cœur, ce qui est quelque chose qui était impensable il y a 25 ans. Les prêtres refusent parce que c'est des filles et qu'il ne faut pas qu'elles s'approchent de l'hôtel. Voilà, donc il y a une vision presque un peu qui souvent fait un peu la marche arrière par rapport à une certaine conception du catholicisme, mais c'est aussi sans doute la liturgie. Enfin, moi je suis allée pour le reportage pour le LSD de France Culture, on est allée à Chartres. Chartres, c'est impressionnant, vous avez 20 000 jeunes, absolument, vraiment jeunes, tous tradis, donc Henri de Saint-Pie V, etc. Quand on les interroge, ils ne prient pas en latin comme on dit, mais en fait c'est prier comme avant le Concile Vatican II, donc c'est quand même une liturgie très, très ancienne, qui reflète une théologie très ancienne, qui n'est plus la théologie aujourd'hui de l'Église catholique. Mais eux, en fait, c'est pas ça. Eux, ce qu'ils aiment, c'est les chants latins, l'encens, les bougies, etc. Ils ont l'impression d'être dans quelque chose qui est à la fois plus visible et plus contraignant. C'est un peu comme une...
Ça veut dire qu'une religion doit être un peu contraignante si c'est trop facile.
Une religion doit être un peu... C'est effectivement une volonté de radicalisation. Alors après, le problème, c'est qu'il y a dans ces gens tradis, effectivement, des gens qui en tout cas manipulent, ou qui en tout cas un agenda idéologique, et qui là vont vers des solutions politiques, elles aussi plus
on extrêmes. Va y venir, on va pas l'esquiver cette question, et Pierre va nous y aider. Bonsoir Pierre.
Oui,
on vous bonsoir. Écoute Pierre, allez-y.
Bonsoir, merci pour la qualité de vos émissions. Je savais pas trop quelle est la teneur des débats ce soir, si on allait ou pas se focaliser sur les cathos tradis. Et je souhaitais que non, en fait, je voulais plutôt faire entendre, si possible, la voix des cathos, ce qu'on appelle des cathos normaux, voire même des cathos de gauche, finalement. Et c'est une espèce qui a existé, qui existe toujours. Et en tout cas, pour ma part, je m'y emploie à ce que ces cathos existent dans les paroisses et qui prônent plutôt les valeurs chrétiennes, vous savez, les valeurs d'ouverture, les valeurs de partage et de tolérance. Et ce ne sont pas forcément ces valeurs-là qui sont dans la bouche des fameux cathos tradis. Et je voulais rappeler quand même, ce soir, le point de vue de ces cathos-là qui existent bel et bien et qui sont finalement un peu la forêt qui pousse, qui fait moins de bruit que les arbres qui tombent, les différents scandales dont on entend parler, qui sont scandaleux.
On a entendu Pierre ce que vous disiez, merci beaucoup, il a raison Pierre sur ceux qui font du bruit et ceux qui font du bruit. Je voudrais quand même, avant de vous donner la parole, les attentes notamment vis-à-vis de la messe, la perception des migrants, c'est les extraits que j'ai gardés ici, je trouve ça vraiment intéressant parce que ce qu'on dit à la fois chez les réguliers et chez les occasionnels, occasionnelle, pardon de vous appeler comme ça un petit peu trop brutalement, que la messe, par exemple, pour les occasionnels, c'est un moment de célébration des valeurs de partage et d'amour, avec un pourcentage qui est extrêmement haut. C'est ça que je veux dire, en fait. La première idée, c'est celle-là. Pardon. On est un peu plus vers l'intimité avec Jésus, etc., chez les gens qui sont plus traditionnalistes, mais les sondages se répondent. S'agissant, par exemple, de la perception des migrants, il y a une écrasante majorité qui va également pour l'accueil des migrants. Donc la question que je me pose, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les catholiques identitaires, qui effectivement poussent du côté de la politique. En fait, c'est quoi, Arnaud Bévilacqua? Ce que je veux dire, c'est que ça représente qui, ça représente combien, si ce n'est ce qu'on peut voir, effectivement, et qui font beaucoup de bruit et qui sont beaucoup mis en valeur à certains égards.
Je pense qu'il faut bien comprendre les termes. Pour moi, déjà, un catholique traditionnaliste, c'est un catholique qui va à la messe en latin. Ouais, ouais. Donc un catholique qui suit la liturgie.
Ça, vous dites
traditionnaliste.
Ce que vous mettez dans cette catégorie. Okay.
Après, il y a des catholiques qui sont, on va dire, classiques, donc qui peuvent être attachés à certaines formes de dévotion, de prière, qui peuvent être effectivement plus conservateurs sur le plan des valeurs morales, que ça soit l'avortement, l'euthanasie. Mais eux, je les classerai pas forcément dans les tradis, parce que on peut être conservateur sur le plan des valeurs et faire des maraudes auprès des SDF et être engagé pour la paix en Ukraine dans des associations. Enfin, et parfois les clivages sont pas tout à fait les mêmes. Donc, je dirais que pour les catholiques identitaires, donc ce sont des catholiques donc qui pourraient utiliser le catholicisme comme un moyen de défendre une civilisation
ces
gens-là on les voit assez peu, enfin ils sont pas majoritaires parmi les catholiques pratiquants réguliers. Les catholiques pratiquants réguliers, effectivement, ils sont dans des attentes spirituelles. Effectivement, l'intimité avec le Christ, mais ça s'oppose pas avec des valeurs. Mais ce sont des gens qui sont vraiment attachés à la pratique. Et ça, effectivement, il y a des catholiques de droite et d'extrême droite, mais je pense qu'il faut faire attention dans les clivages qui sont assez fins.
Isabelle de Golemin, les jeunes notamment que vous avez rencontrés à Chartres, typiquement, qui étaient dans un catholicisme très engagé et donc très tradit, est-ce que vous les sentez aussi identitaires, c'est-à-dire parlant aussi de civilisation, de perte éventuelle de civilisation, etc., donc prêts à glisser vers ce catholicisme identitaire qu'on est en train de décrire ou pas?
Oui, deux choses. Eux, pas tous. Par contre, les organisateurs et les leitmotifs qu'on entendait dans les haut-parleurs tout le temps, c'était « notre civilisation va à sa perte, vous devez réagir contre les lois, on est dans la décadence, etc. » Donc, ils sont quand même un peu dans ce moule-là, mais tous ne sont pas là singulièrement. Ensuite, ce qu'il faut dire pour répondre à Pierre, il a tout à fait raison, tous les catholiques ne sont pas tradis. Il y a quand même, en 2022, il y a eu un choc dans le monde catholique, puisque il y a des sondages sortis des urnes, donc c'est des sondages qui sont très très crédibles, parce qu'en fait c'est sur beaucoup de gens, qui ont montré quand même que 40% des catholiques, qu'ils soient pratiquants ou occasionnels, avaient voté soit pour Zemmour, soit pour Marine Le Pen, soit pour Dupont-Aignan. Donc beaucoup plus que les Français en général.
40% des catholiques.
Voilà, 40%.
Ça, c'est un très très gros pourcentage.
Donc c'est un gros pourcentage. Et pour les catholiques pratiquants, c'est le même pourcentage, sauf que c'est Zemmour qui arrive devant Marine Le Pen. Donc il y a une surreprésentation aussi du vote Zemmour chez les catholiques. Donc là, on voit bien à la fois finalement les conséquences du mariage pour tous, qui a été vécu douloureusement par certains catholiques. Et c'est vrai que pour eux, c'était important le mariage. Ils ont eu le sentiment que finalement, leur société n'allait pas dans le sens, qu'on n'est plus dans la même anthropologie, etc. Donc il y a ce phénomène-là. Mais là où je suis d'accord avec Pierre, c'est qu'il y a des jeunes aussi catholiques de gauche, assez minoritaires, mais qui sont assez visibles, parce que eux aussi sont très militants et qui sont très forts dans l'écologie, dans l'accueil aux migrants, etc., et qu'on voit aussi beaucoup.
Mais est-ce que ces identitaires-là dont vous parlez, effectivement, et qui donc amènent jusqu'au vote, vous avez cité le Rassemblement National, Reconquête et Dupont-Aignan, est-ce que ça a participé à la visibilité réellement, et même, je repense à notre premier auditeur, que je ne soupçonne pas ou pas, j'en sais rien, de voter dans quel sens, mais est-ce que ça a redonné une espèce de fierté ou de possibilité de parler de ces sujets, y compris de civilisation, qui n'existaient pas avant ou pas?
Non, moi je dirais pas ça. Ouais. Franchement, je pense que c'est deux choses un peu séparées. Il y a de fait, on voit chez les jeunes aujourd'hui une envie de dire qu'on croit en quelque chose, une recherche de sens, etc., avec un côté plus traditionnelle, sans doute parce qu'on a besoin de, d'une identité plus forte aujourd'hui. Et puis, il y a effectivement une, quand même une, un certain nombre de catholiques, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont fiers, mais qui ont le sentiment que le catholicisme est aujourd'hui le rempart contre l'islam. En fait, c'est ça le sujet.
Mais est-ce que ça veut dire, Arnaud Bévilacqua, que, au fond, ce catholicisme-là est en train de changer, de se recomposer autour de ce noyau dur-là, en fait, pour ce qui est des très engagés? Et est-ce que est-ce qu'on s'en inquiète, ou est-ce que c'est comme ça? Enfin,
je pense pas qu'il se recompose autour de ça, parce que nous, notre enquête montre quand même que sur la sensibilité politique, il y a une diversité. C'est vrai que cette, donc sur la proximité partisane des gens, on voit qu'il y a 30% des gens qui se situent à gauche et à extrême gauche, 40% à la droite et à l'extrême droite. Donc, en revanche, c'est vrai que pour revenir sur l'élection présidentielle de 2022, c'est très clair qu'il y a eu un survote des catholiques pour les candidats d'extrême droite, qui peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, peut-être que la proposition de la droite plus classique ne convenait pas à ces catholiques conservateurs, qui ont pu basculer, en effet, chez Zemmour. On a vu un survote catholique pour Éric Zemmour à ce moment-là. Et après, c'est vrai que le catholicisme est travaillé par des questions d'identité, par des questions... Le fait d'être minoritaire, ça leur fait peur, c'est vrai. La concurrence avec l'islam, que certains vivent difficilement, la question, clairement, de l'accueil des migrants. Donc, toutes ces questions-là, forcément, elles travaillent les catholiques parmi les plus conservateurs.
Et c'est pour ça que je pose la question de savoir s'il y avait une restructuration, en fait, Isabelle de Golemin, ou pas.
Moi, je pense, en tout cas, la situation actuelle, il ne faut pas minorer ça. Je pense que, quand même, c'est inquiétant, c'est-à-dire que effectivement, ce n'est pas tous les catholiques, et il reste quand même très important dans le réseau associatif, caritatif en France, mais c'est quand même des gens qui, aujourd'hui, sont entretenu dans cette vision-là par des gens qui ont beaucoup d'argent, et ça, c'est ça qui est nouveau, et c'est de fait, là, on retrouve un peu l'exemple américain, que ce soit la sphère Bolloré ou la sphère Sterrin, dans une église qui, elle, n'a plus d'argent, donc les associations sont sans cesse à la recherche d'argent, et du coup, ça donne beaucoup de poids à ces milliardaires dans la catosphère, on va dire. Et c'est ça, me semble-t-il, qui est dangereux. En tout cas, il faut réagir, il faut continuer à se battre pour un catholicisme pluriel, et il faut, comme le disait très bien Pierre, montrer qu'il y a d'autres gens que ces gens-là dans le catholicisme, et ne pas leur laisser complètement la parole.
Et alors, mais justement, moi, mon interrogation, et j'avais la même en lisant votre sondage, en fait, au-delà même des identitaires, je voulais savoir s'il y a un cercle d'occasionnels et un cercle de réguliers, à quel moment ils se rencontrent, et au fond, ils se rencontrent sur quoi ? Il y a Sylvain, là, sur WhatsApp, qui nous dit, moi, je souffre de la tournure de l'Église actuelle, qui vote de plus en plus à l'extrême droite, et en même temps se compte dans les pratiques traditionnalistes aux dernières législatives. Il n'y a pas eu de discours clair de l'Église contre l'extrême droite, ce que l'Église, effectivement, ne fait jamais. On est d'accord,
Faisait. Voilà. Elle le faisait. Lucigée, elle le faisait de manière très forte.
Elle ne le fait plus. Depuis, je donne plus à la quête, et je donne à SOS Méditerranée aussi. Je ne donne plus à la quête, dit-il, pardon, Sylvain, je lis votre message à l'envers, mais je donne à SOS Méditerranée, c'est ce qu'il dit. Mais cette idée qu'il y a finalement divers cercles qui sont en train de se structurer, où on vit sa religion très différemment, encore une fois, les très tradis, on va les appeler les catholiques nationalistes, les engagés qui vont à la messe régulièrement, et puis les occasionnels. Est-ce qu'à un moment, ils se retrouvent, ces trois-là, ou ça va finir par être trois entités très éloignées?
Le clivage, en tout cas, de notre sondage, il montre qu'il est plutôt entre les catholiques pratiquants réguliers, qui ont leur diversité en interne, et les occasionnels engagés, donc qui sont ceux qui vont à la messe moins d'une fois par mois, mais qui ont pris au cours de leur vie un engagement au nom de leur foi. Et donc, sur ces deux publics-là, on voit en effet des attentes différentes. Par exemple, et vous l'avez cité sur les attentes à l'égard de la messe, on voit très clairement des différences. On voit sur les questions de société que les occasionnels engagés, ils sont beaucoup plus en accord avec les valeurs dominantes aujourd'hui dans la société. Donc là, on voit ces vraies différences. Et pour aller un peu à l'encontre de votre question, les occasionnels engagés, on voit qu'ils sont plus à droite et plus à l'extrême droite que les catholiques pratiquants réguliers. Donc c'est pas facile.
Ils sont pas toujours faciles à lire, ces cercles divers, Isabelle de Golemin.
En fait, la société, elle est comme ça aussi. Je veux dire, il y a pas de raison que les catholiques échappent à la parcellisation au fait qu'on est de plus en plus divisé et en communauté. Ce qu'il faudrait quand même noter par rapport à un certain nombre de vos intervenants, c'est que c'est vrai qu'il y a quand même des gens à qui cette extrémisation ou cette nationalisation du catholicisme fait peur, mais qui a aussi par ailleurs des papes, et notamment on peut penser au pape François et au pape Léon XIV, qui sont aussi complètement à l'opposé de cette utilisation de la religion de manière politique. Mmh. Et bon, si votre auditeur finance le bateau qui va au secours des migrants, il est complètement pape François, en fait. Et aussi d'ailleurs Léon XIV qui a cette sensibilité-là. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est aussi dans une religion qui, internationalement, est prise dans ces mêmes clivages, en fait.
Il y a Quentin sur WhatsApp qui nous dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien à faire entre le retour du religieux et le développement des théories du complot, la nécessité de trouver, d'inventer des raisons, des explications dans un monde qui est en perte de repères et de sens. Et je trouve que c'est intéressant, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais dans ce monde effectivement de fake news et de complot, c'est très rassurant de pouvoir mettre une explication derrière les choses. Il peut y avoir un petit peu de ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est possible. Après, ce serait un peu présenté comme la religion, comme l'opium du peuple, mais c'est très clair que moi,
comme quelque chose de rassurant.
Oui, c'est très clair qu'il y a une demande de sens. Ça, c'est évident. On voit des jeunes qui aujourd'hui savent plus trop à quel saint se vouer, si j'ose dire. Notamment, très angoissés sur la question écologique, angoissés sur l'avenir du monde. Et ils ont aussi besoin de retrouver des valeurs fortes.
Il y a quelque chose de la safe place, en fait, du lieu où on est sûr. Et c'est valable pour les catholiques. Je pense que ce serait valable si on posait la question aux jeunes musulmans ou à deux jeunes évangélistes. Ça dirait, à mon avis, la même chose, non, Isabelle Degomont?
Oui, alors ça dépend un peu quelle conception de la religion. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire, je doute donc je crois. C'est-à-dire que parce qu'il me paraît que il me semble que justement la foi, c'est quelque chose qui est en éternel cheminement. Mais c'est vrai que je pense que là, il y a une responsabilité des cadres. En fait, l'Église catholique a cette chance quelque part, qui peut être aussi un inconvénient, d'avoir une structure assez forte, une hiérarchie, etc. Donc, des gens qui, normalement, doivent remettre dans les cadres et ne peuvent pas laisser faire, effectivement, les théories du complot ou les choses comme ça. Et il me semble que, par rapport à ces jeunes qu'on voyait à Chartres, c'est aussi le rôle de la hiérarchie catholique et des adultes, plus adultes, de dire à ces jeunes, mais attention, il n'y a pas une vérité comme ça, unique, universelle, qu'on serait les seuls à détenir. Et vous devez être aussi dans le dialogue, dans l'ouverture, etc. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'avoir quand même une structure qui peut un peu réguler. On voit bien que sur les évangéliques, par exemple, ça peut aller dans tous les sens.
Ouais. Mais en même temps, qu'est-ce qui plaît chez les évangéliques de plus en plus? Est-ce que c'est justement un rituel ou une liturgie, qui ne s'appelle pas une liturgie d'ailleurs, qui est beaucoup moins stricte, quelque chose qui est peut-être même plus joyeux? Est-ce que c'est ça aussi qui envoie les gens vers les églises évangéliques? Non, y compris chez nous. Hein,
oui,
pas seulement un phénomène sud-américain.
J'avais fait une enquête sur les églises évangéliques en Île-de-France, et c'est très fort. Il y a plusieurs choses. C'est le côté émotionnel, ça c'est très clair. Le côté, effectivement, peu institutionnalisé. Donc chaque église, fait sa vie comme elle l'entend. Et après, dans les évangéliques, il y a quand même une part très forte de gens qui sont issus de l'immigration, qui viennent de pays où ils étaient évangéliques, donc beaucoup d'Africains qui viennent dans ces églises évangéliques-là. Donc ils ne ressemblent pas vraiment aux évangéliques. On pense à ceux, aux évangéliques qui vont Trump, par exemple.
Oui, on n'est pas aux États-Unis, c'est très différent. Voici Blandine qui est avec nous. Bonsoir, Blandine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Écoutez, moi, je suis un petit peu désarçonnée devant la tendance vers le traditionnalisme d'un certain nombre de chrétiens. Avec ça, il faut aussi être tolérant. Mais je suis aussi très, très malheureuse et déçue que les femmes ne soient pas assez considérées, que l'Église, pour l'instant, n'admette pas les femmes, au moins au diaconat, parce qu'elles auraient beaucoup, beaucoup à faire et beaucoup à dire, et puis à témoigner, et puis qu'elles ne puissent pas accéder à la prêtrise, ou au moins pouvoir donner le sacrement des malades quand elles sont aumônières à l'hôpital, etc. Je trouve que le mépris des femmes est encore trop fort.
Et vous êtes toujours pratiquante, hein, Blandine?
Oui, d'accord. J'ai 72 ans, okay. Je suis toujours pratiquante, toujours engagée dans ma paroisse depuis toujours.
Et je voudrais ajouter, merci beaucoup Blandine, à la question de Blandine, la remarque de Blandine, celle de Valérie, qui se demande si le catholicisme tradit ne se renforce pas à la même vitesse et au même moment que le masculinisme. C'est pour ça que je vois Isabelle de Gaulle qui fait un oui avec la tête. Est-ce qu'on dit un oui ou pas?
Bah oui, effectivement. Non, non, mais c'est le sondage de la Croix le dit d'ailleurs, hein, que les catholiques occasionnels sont pour une réforme de l'Église quand même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, continuer à avoir une Église qui refuse en fait l'accès aux femmes à des responsabilités, enfin en tout cas, soit diacre, soit prêtre, qui les laisse un peu comme ça dans le bas des choses. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ce problème des femmes aujourd'hui devient aussi un marqueur. Et là, vous avez bien raison, pour les identitaires. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous les gens un peu tradis, un peu identitaires, ils mettent les femmes de côté. Et alors, est-ce que c'est le retour du masculinisme ou de gens qui ont l'impression qu'ils n'ont plus de place, des hommes qui n'ont plus de place et qui se disent, au moins dans leur religion, on a encore des places? C'est pas simplement le catholicisme, hein, c'est vrai dans le judaïsme, c'est vrai évidemment dans l'islam, c'est vrai aussi chez les évangéliques. Donc, sur les femmes se joue quelque chose d'important qui, à mon avis, est l'ouverture ou pas au monde. C'est-à-dire que l'Église catholique aujourd'hui ne peut pas faire comme si il n'y avait pas eu une révolution du féminisme hyper importante, qui est sans doute le grand marqueur du siècle dernier.
Est-ce que ça aussi... Vous levez le doigt, Arnaud Bévilacqua, je vous remercie beaucoup. Allez-y, vous pouvez parler maintenant.
Non, c'est très intéressant. Sur la place des femmes, on voit dans notre enquête que c'est un des points qui réunit les pratiquants réguliers et les occasionnels.
Vous voyez, je cherchais quels étaient les endroits où les cercles se rejoignaient.
Il y a des nuances, ça veut dire que cette question de la place des femmes aujourd'hui, parce que les catholiques, ils vivent dans la société, ils sont pas sur une île, donc forcément les dynamiques qui travaillent la société se retrouvent parmi les catholiques, et donc là on voit très clairement que sur la place des femmes, il y a l'Église est challengée et on attend, certains attendent des réformes. Et très clairement, je dirais même chez les catholiques plus classiques, il y a une vraie attente aussi sur cette question-là d'une même égalité entre les hommes et les femmes. Alors après, derrière le mot égalité, on met différentes choses. Effectivement, notre auditrice parlait du diaconat féminin. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le diaconat féminin n'est pas encore ouvert dans l'Église, mais il y a des débats. Sur la question de l'ordination des femmes, le débat pour l'instant il est fermé, il est pas du tout ouvert, mais sur le diaconat ça pourrait avancer. Mais c'est, en tout cas, tout ça pour dire que nous on va faire une enquête justement sur le féminisme dans l'Église la semaine prochaine. C'est une question qui travaille vraiment l'Église et où je pense que aujourd'hui c'est plus toléré. Les femmes ont des postes à très haute responsabilité dans les entreprises, en politique, etc. Et pas dans l'Église.
Enfin, c'est marrant parce qu'à l'Église. À l'instant, il y a un message WhatsApp de Bernard qui se demande si les néo-féministes sont parfois cathos ou pas. Est-ce que ça existe ça dans l'Église, ces nouveaux féministes qui ont émergé plus ou moins 5 ans avant MeToo, au moment de MeToo, etc.
Oui, il y a d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il y a un féminisme catholique. Pas chez les identitaires, mais en tout cas chez les tradis, avec une espèce de revalorisation du rôle de la femme, mais plutôt la femme comme épouse, la femme comme s'occupant de la famille, comme mettant au monde les enfants, et des féminismes du côté catho de gauche, qui alors eux sont très féministes au sens effectivement néo-féministe.
J'avais pas regardé l'heure, mais il nous reste une minute. Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous disiez il y a une seconde, Arnaud Bévilacqua. Vous disiez les catholiques vivent pas dans une île, ils vivent dans la société, mais ils vivent surtout en ville. Et ça aussi, je l'ai vu dans votre sondage, c'est surtout en ville qu'il y a un renforcement. Les églises rurales, elles continuent à se vider extrêmement vite, visiblement.
Ça, c'est vraiment une constante. Le catholicisme se recompose autour des pôles urbains parce qu'il y a une forte proposition catholique et c'est là où l'Église met un peu les forces. C'est là où il y a beaucoup de prêtres et puis le monde attirant le monde. Donc c'est vrai que des fois, on a eu des remarques de nos lecteurs plus en monde rural qui se retrouvaient pas dans le dynamisme pouvait décrire, mais en fait c'est parce que ces deux réalités existent et montrent effectivement un côté où c'est plus difficile, il y a une raréfaction des prêtres, et en ville où le catholicisme reste actif.
Écoutez, allez lire ce sondage parce qu'il est vraiment passionnant dans La Croix, et profitez-en aussi pour passer par les podcasts de France Culture LSD. Comment ça s'appelle déjà encore une fois, Isabelle ?
Catholique de France, la tentation radicale.
Eh bien voilà, c'est facile à trouver. Merci à tous les deux, merci à tous pour vos nombreux appels. La question d'Arnaud qui a 4 ans et demi pour les petits bateaux va nous changer d'ambiance.
Allô, je voudrais savoir pourquoi le caca et le pipi vont dans les égouts et c'est pas bon pour les poissons.
Voilà, je vous aurais prévenu.